Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes jeudi 25 janvier. Bonne journée, bienvenue au 98.5 avec des températures autour de moins 4 degrés. Ciel généralement nuageux et oui, on a reçu de la pluie verglaçante dans les dernières heures. Et ça continue un peu, il y a de la bruine qui devrait cesser, c'est pas déjà le cas. Après quoi, alternance de soleil et de nuages avec des vents jusqu'à 15 km/h. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux. Et puis, au cours de la nuit, deuxième épisode de la bruine verglaçante. Ça va se passer surtout en fin de nuit, donc possiblement demain à l'heure de pointe. Et après quoi, on a une espèce de mélange de pluie verglaçante qui devient de la pluie mêlée de neige faible au cours de l'après-midi, avec toujours un maximum prévu de 1 degré. Samedi, nuageux. Dimanche, alternance de soleil et de nuages. Bon, c'est sûr, et on le vit avec Marc, il y a des enjeux concernant la circulation par endroit. Moi, personnellement, à Montréal, j'ai pas fait le tour de la ville, là, mais j'ai vu des trottoirs qui avaient été épicés correctement. Ce qui prouve que quand on veut, on peut. Je sais par contre, parce que vous êtes nombreux à me le dire ce matin, là, qu'il y a bien des endroits où ça demeure, en fait, des trottoirs qui sont extrêmement glissants. Quoi qu'il en soit, soyons donc prudents ce matin. Pour ce qui est des écoles, alors, commission scolaire plutôt Riverside s'est fermé pour la journée. Centre de service scolaire de la vallée des Tisserands également. Saint-Hyacinthe, Grande Seigneurie. Des Patriotes, c'est aussi fermé. L'Académie internationale Charlemagne, Collège Charlemagne, le Collège Héritage de Châteauguay, Collège Saint-Maurice à Saint-Hyacinthe, l'École secondaire Saint-Joseph et la petite Académie du Boisé, c'est fermé. Tout ça, c'est à Saint-Hyacinthe. Donc, peut-être que la liste va s'allonger, mais il y a certains enjeux ce matin pour les parents. Et je vous parlais des trottoirs glacés et des rues. On s'attend à ça, mais on le savait tous qu'il y aurait ce verglas et que ça pouvait donner certains enjeux. Mais l'équipe ici, Alain, me parlait dans le coin de la Rive-Sud. Ça circulait relativement bien, puis même sur les rues secondaires aussi. Alors, possible que dans votre coin, ça soit pas fait. Mais ce que ça montre, c'est que il me semble que c'est tellement clair qu'il y a des arrondissements qui travaillent bien, puis il y a d'autres endroits, il faut leur botter le derrière. Et ce qui m'enrage le plus, c'est quand tu vois cette sortie de la ville de Montréal pour nous expliquer qu'ils avaient acheté 14 croque-glaces. Ça a coûté 350 000 piastres. Puis ça fait 2 ans qu'on s'en sert pas parce que c'est dans le garage, il faut les réparer. Et la conception de ces appareils démontre que c'est pas tellement utile. Il y a tellement de critères pour les sortir. Et la conclusion, c'est que l'administration Plante a acheté ça dans le cadre, pas d'une opération de déglaçage, mais d'une opération marketing. Pour nous dire, regardez, là, on s'équipe. Parce qu'à l'époque, je me souviens, M. Parenteau me disait, M. Arcand, on va s'équiper, puis vous allez voir, puis on va vous faire une démonstration. C'était, encore une fois, de la bullshit, parce qu'ils sont même pas capables de les utiliser convenablement depuis 2 ans. Et veux pas, ça doit forcer une forme de réflexion sur les opérations de déneigement. On s'attend pas à ce que ce soit parfait 30 secondes après de la pluie verglaçante. Mais comment ça se fait qu'il y a des trottoirs où c'est praticable en sécurité, puis d'autres endroits, ça ne l'est pas pantoute. Ça demeure des choix quand même des opérations. Voilà pour le premier constat de la journée. Maintenant, le dossier, je pense, le plus important ce matin, ça concerne les 5 joueurs de l'équipe de hockey junior du Canada, édition 2018, qui vont faire face à des accusations d'agression sexuelle. C'est en quelque sorte le scandale qu'on a cherché désespérément à étouffer pendant des années. Alors, je rappelle donc, il y a la victoire de l'équipe comme telle, et il y a un espèce de soirée de reconnaissance, puis de festivité, puis il y a un gala, puis on joue au golf. Et il y a une jeune fille qui a été agressée sexuellement. Ce qu'on a compris, c'est qu'elle était intoxiquée, qu'elle est partie avec un joueur, c'était sur une base consensuelle, et que par la suite, le joueur a invité ses amis. Et là, malgré, dit-elle, qu'elle ait manifestement dit non à plusieurs reprises, de différentes façons, elle a été agressée plusieurs fois. Je veux juste rappeler quand même qu'elle avait porté plainte à la police de London, qu'on avait jugé qu'il n'y avait pas matière, qu'elle est revenue, qu'il y a donc eu une entente. Et on a découvert qu'à Hockey Canada, on avait une espèce de petit tiroir caché avec de l'argent pour compenser des victimes dans des cas comme ça d'agression sexuelle. Et c'est reparti. Donc, la discussion a été relancée. Il y a des journalistes qui ont travaillé là-dessus. Et Alain le disait tantôt, ça a permis de ramener ça à l'ordre du jour. Et là, série d'enquêtes, le ménage à Hockey Canada, des enquêtes menées par Hockey Canada, dont on attend toujours les résultats. La Ligue nationale s'est mêlée de ça. Donc, après toutes ces années, on apprend que finalement, il y a 5 joueurs qui vont faire face à la justice pour ça. Et ils sont appelés à se présenter, ce qui n'est pas inhabituel, là, avec sans doute une promesse de comparaître. On disait hier qu'il y avait déjà des avocats connus, des célébrités du monde juridique de Toronto qui avaient été mobilisés pour les représenter. Et que la police de London, qui l'avait comme échappé à l'époque, il y a 4-5 ans, ils vont faire le point le 5 février seulement. Et c'est à ce moment-là qu'on devrait connaître les identités des joueurs en question. Et puisqu'on parle de hockey, la presse ce matin nous donne un autre exemple de violence et de perte de contrôle chez les parents. Là, on parle de hockey, c'est un père mécontent qui a frappé l'arbitre en chef, Gabriel Grégoire, dans un aréna. Et le titre ce matin, c'est que les parents sont devenus fous. Ils sont pas devenus fous, ils sont fous depuis déjà un bon bout de temps. Ils ont des comportements agressifs. Et ça s'est passé à Saint-Rémy, en fait sur la rive sud de Montréal. C'est l'arbitre en chef pour les associations de hockey mineur, Gabriel Grégoire. Puis un joueur qui a été expulsé, son père a pas aimé ça, puis il est allé donner un coup à l'arbitre en chef, qui n'était pas celui qui était impliqué dans le match, mais il était présent dans l'aréna. C'est une conversation qui a mal viré. Puis là, on cherche des moyens. Là, ça a l'air qu'il faudrait mettre des barrières pour empêcher des parents d'avoir accès aux arbitres quand ils sortent. Puis là, t'as une barrière, tu sais, qui est pas très haute, puis quelqu'un qui est bien agressif est capable de passer par-dessus. Là, on veut mettre des caméras, comme on a vu dans le cas du soccer en Estrie. Pour filmer le comportement de gens qui s'approchent des arbitres. Et puis là, je rappelle que beaucoup de ces arbitres-là, ce sont des mineurs. Ils ont même identifié des arbitres de moins de 18 ans. En disant, on veut juste vous rappeler que ce sont des ados et qu'ils sont pas payés cher, puis il y a bien du bénévolat dans ça. Alors, c'est une fois de plus l'occasion de rappeler aux parents de se calmer les nerfs et de juste se souvenir que c'est du sport, qu'on est là pour s'amuser. Point à la ligne. On va revenir sur le dossier de Sutton Québec ce matin. Il s'en passe des affaires dans le monde de l'immobilier. Des gens qui se sont arrangés pour faire grimper le prix de certaines propriétés qui ont été condamnées, reconnues coupables. Vous avez toute cette histoire de Sutton. C'est des guerres de commerce. On a vu ça dans différents secteurs, là. Je me souviens de la guerre des pizzerias, je me souviens de la guerre des comptoirs de restauration rapide. Il y a différents commerces comme ça où on tolère pas la présence d'une compétition. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que c'est quelqu'un qui a quitté Sutton, qui est allé vers une autre bannière. Puis là, pendant ces années-là, on aurait comploté, je dis bien on aurait, là, parce que la preuve n'a pas été faite devant le tribunal, mais qu'on a commandé donc des incendies de nature criminelle. Avant de parler avec Marc, il y a c'est les propos de la présidente de l'Association des psychiatres qui m'a fait sursauter ce matin. C'est l'enquête sur la mort d'Amélie Champagne, enquête du coroner. Et Amélie Champagne s'est enlevée la vie après avoir visité 2 hôpitaux, après avoir fait une tentative de suicide. Elle avait des enjeux important et on l'a laissé partir. Et en quelque sorte, le système l'a échappé. Donc, il y a une enquête du coroner pour établir les circonstances. On ne cherche pas des coupables, mais on veut savoir pourquoi et comment c'est arrivé. Et ce qu'elle a dit, Claire Gamache, la psychiatre, présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, c'est que les parents d'Amélie auraient dû insister pour rencontrer son psychiatre, le médecin qui s'occupait d'elle, avant qu'elle quitte l'hôpital. Là, tu dis pardon. Êtes-vous en train de transférer la responsabilité aux parents de la jeune fille qui s'est enlevée la vie? Et elle a même dit, dans son témoignage, je cite la presse, « Je sais, c'est effrayant ce que je vais dire. Oui, c'est effrayant. » Donc, si les parents n'ont pas insisté, c'est un peu de leur faute peut-être ce qui est arrivé. Il faut le faire, là. Juste rappeler qu'ils ont essayé de parler à des médecins qui sont intervenus et que le mandat de ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, c'était de la sortir puis de la renvoyer à Montréal. On est en Estrie, on est à Sherbrooke. Et de se faire dire, comme parent, insistez donc, demandez de voir le médecin avant de quitter l'hôpital. C'est pas plutôt au médecin d'aller voir les proches puis de dire « voici la situation concernant votre fille ». C'est pas la responsabilité du médecin de faire ça. Je trouve que de transférer la pression aux parents, et c'est odieux. Il n'y a pas d'autre mot, je pense, que c'est odieux. Puis c'est pas professionnel. Et j'espère que dans les recommandations de la coroner, on va au moins indiquer que c'est pas aux parents d'inciter. Que c'est aux professionnels de la santé de faire leur job puis de dire aux parents, voici ce qui arrive avec votre fille dans ce contexte précis. Parlons du dossier de Northvolt. Le juge a décidé de prendre en délibéré la demande d'injonction. Et on verra la décision. On sait que les plaignants sont de plus en plus nombreux. Et on a vu, évidemment, le premier qui porte le ballon, là, le Centre québécois du droit de l'environnement. Mais vous avez aussi les Mohawks de Kahnawake qui ont décidé d'intervenir dans le débat, puis plein d'autres groupes de pression qui disent, grosso modo, faisons des évaluations. Il faut arrêter les travaux de façon temporaire et forcer le gouvernement du Québec à reprendre tout le dossier pour mesurer l'impact. Alors, la compagnie dit... oui, on coupe des arbres, mais on s'est engagé quand même à recréer d'autres milieux dans le même territoire. Les groupes de pression trouvent que c'est pas assez, surtout que c'est pas précis, puis on veut mesurer vraiment l'ensemble des impacts. Et là, il y a beaucoup, je dirais, de... Comment je dirais ça? Pour rester gentil, il y a quand même, appelons ça un jeu de la pression. Tiens, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez les groupes environnementaux qui, je pense, ont le droit, puis c'est normal de dire, ça va un peu vite votre affaire, là, puis est-ce qu'on peut regarder ça d'un peu plus près? Puis quels seront les véritables impacts de la construction de l'usine, puis autour d'un terrain immense, le seul qui pouvait faire l'affaire de Northvolt, paraît-il, et les compensations qui seront versées sur le plan environnemental. Je veux juste rappeler qu'il y a beaucoup d'entreprises qui payent un montant au ministère de l'Environnement pour recréer ailleurs ce qu'ils sont en train de détruire pour des raisons d'aménagement de territoire. Malheureusement, le ministère de l'Environnement ne va pas très vite pour construire. L'argent est là, mais c'était nettement en bas des montants qui sont récoltés. Puis là, les Mohawks se mêlent de ça. Puis là, vous allez avoir une série de groupes. Là, Québec dit, on peut pas faire ça, puis ça retarde le projet, puis plus on retarde, ben la compagnie va peut-être changer d'idée, puis tout ça. M'étonnerait que Northvolt, pour une question de semaine, décide carrément de dire, je reprends mon projet, puis je vais faire ça ailleurs. Compte tenu surtout que Québec et Ottawa ont été les plus généreux au monde dans les montants, dans l'enveloppe, le montage financier qui a été proposé. Alors, on verra ce que va décider le juge. Est-ce qu'on va, oui ou non, accorder une injonction? Puis si jamais elle n'est pas accordée, comment ça va se passer? Puis là, les groupes disent, ça veut pas dire qu'on est contre l'usine. On parle pas ici de chercher du pétrole ou du gaz naturel. On est en train de construire une usine de batterie, de cellules de batterie. C'est assez de voir jusqu'à quel point là on n'a pas intérêt à ce que ça se fasse ici. Je sais que ça perturbe la vie de certains gens dans le coin, puis ça va augmenter le trafic, puis bon, tous les enjeux. Mais quand même, il semble que pas un projet mauvais, celui de Northvolt. Banque du Canada, vous avez remarqué, bien sûr, la décision qui a été rendue hier. On bouge pas, puis on attend. Puis là, on pense que les taux d'intérêt, si la tendance de l'inflation reste ce qu'on perçoit, ça pourrait peut-être baisser dans le milieu de l'année. Puis peut-être qu'on va se retrouver à l'inflation 2 % quelque part dans un an. Il y a le Globe and Mail ce matin qui dit, puis là, c'est à vous de vérifier si vous avez des enjeux de renouvellement de prêts, d'emprunts, etc. Il commence à y avoir un certain mouvement à la baisse des taux d'intérêt. C'est rien de spectaculaire. C'est rien non plus qui va tellement vous affecter tout de suite, mais comme on projette dans le temps sur des hypothèques sur quelques années, ben, ça commence un peu à baisser. Puis les montants d'intérêt qui sont accordés pour des placements garantis, certificats de placement par les banques, ben ça aussi, c'est le phénomène inverse. Là, ça baisse, inverse dans le sens que c'est un peu moins payant que ça l'était peut-être il y a quelques mois. Faut magasiner, faut vérifier avec chacune des institutions, mais semble-t-il qu'on observe cette tendance. Pour ce qui est du monde de l'éducation, on dit qu'il y a un autre syndicat qui a voté contre l'entente de principe, c'est dans les Basses-Laurentides, et c'est un syndicat qui est affilié à la FAE. Comme vous voyez, c'est extrêmement serré. Et puis j'ai reçu des courriels de profs qui étaient à cette assemblée puis qui disent que c'est pas du tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment sur l'organisation de la classe. D'ailleurs, concernant le tutorat, le ministre Drainville a dit hier, attendons, j'aurai un portrait plus juste dans quelques jours. Peut-être, mais ce qui est certain, c'est que on ne se précipite pas pour devenir tuteur. Puis est-ce que les budgets sont clairs? Est-ce que ça varie encore là d'un centre de service scolaire à l'autre? Peut-être. Mais il y a bien des profs qui sont plus ou moins intéressés. Et je veux terminer ce matin en vous parlant. T'sais, on se compare. Poilievre qui a dit que la mairesse de Montréal puis le maire de Québec sont des incompétents parce que les projets prennent du temps puis que ça ne développe pas assez vite. Je vais vous donner l'exemple de San Francisco. C'est le New York Times qui rapporte ça ce matin. Alors, dans un joli quartier de San Francisco, on a décidé de construire une espèce de parc, place publique qui a été aménagée, et on veut construire une toilette publique. Une toilette, un lavabo, là. On parle rien de sophistiqué, rien de trop complexe. Le projet est rendu à 1,7 million pour une toilette. Et on n'est même pas en mesure de dire à quel moment ce sera complété. Et ça, c'est le budget. C'est le Toilet Gate à San Francisco. Et ça vient illustrer la bureaucratie. Et là, on donne des exemples pour la construction. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand on parle de Montréal. Et c'est vrai que c'est long. On dit, par exemple, que ce projet a coûté 500 000 $ semble-t-il, en design. C'est pas croyable. Ça, c'est premier exemple. Et deuxième exemple, ce sont les délais de construction entre le moment où tu as un permis et que tu peux te mettre donc à construire. Ça peut prendre 3 à 4 ans. C'est un peu ce que l'on vit à Montréal souvent. Parce que c'est une ville avec 30 000 fonctionnaires, puis c'est une machine lourde, puis ça prend des permis, puis ça faut consulter, puis l'urbanisme, puis tout ça. Je comprends qu'on peut pas faire n'importe quoi. Mais ça n'a pas de bon sens, pareil, la durée. Moi, je passe souvent devant des terrains vagues où c'est écrit projet de condo ou projet de logement, puis ça fait des années où il se passe rien. Là. Peut-être que c'est le promoteur qui veut plus, les taux de financement sont trop chers, mais l'heure est venue d'avoir une véritable discussion sur la construction. Parce que sinon, on peut bien se compter des peurs puis faire comme la ville a inventé des logements, là. Tu sais, c'est leur forte, c'est leur force de faire ça, c'est nous garrocher des chiffres qui sont même pas réels. C'est pour montrer qu'ils sont en mouvement, c'est des projets qui sont peut-être en train de se réaliser, mais qui sont pas encore vraiment fonctionnels.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Donc, ça fait pratiquement un an que la Société d'assurance automobile du Québec a implanté son nouveau système avec le chaos qu'il a généré depuis un an. Évidemment, les choses se sont quand même un peu placées, mais la semaine dernière, je vous racontais des gens qui avaient remisé leur véhicule et qui attendaient toujours le remboursement. Et ils se sont fait dire que ça pourrait aller jusqu'au mois d'avril, alors qu'ils vont remettre leur véhicule sur la route. Donc, même si c'est moins la manchette, il y a encore des ratés importants. Puis, je vous donne un exemple ce matin avec notre invité qui s'appelle Benjamin Provost. C'est un entrepreneur général. Il a vécu toute une saga au mois de mai, et la saga reprend au mois de janvier. Monsieur Provost, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par ce qui est arrivé au mois de mai, quand vous avez été intercepté au volant de votre véhicule. Racontez-nous ce qui est arrivé.
Dans le fond, c'était un matin assez tôt, je partais travailler, de 5h30, 6h, puis je me fais intercepter dans la ville de Belleuil par un policier qui me dit que j'ai pas le droit de conduire parce que mon permis de conduire est révoqué à cause d'une arrestation pour soit drogue ou alcool au volant, mais il est pas sûr, il comprend pas. Donc là, il fait des vérifications, il me dit que c'est bel et bien ça, donc il fait remorquer mon véhicule. Il me dit qu'il faut que j'aille à la SAC m'arranger. Donc là, je me retrouve au milieu de la rue sans rien. J'arrive à la SAC, puis là, comme le monde le savent, la SAC, là, c'était vraiment le bordel, là, c'était en cité en mai, là, c'était vraiment quelque chose, là, les grosses lignes dehors. Puis ça la donne qu'en dedans, il y a un monsieur qui entend mon histoire, puis qui connaît la gestionnaire de la SAC de Belleuil. Donc, il me présente à cette madame-là, je lui explique ce qui allait se passer. Elle comprend pas, elle fait des vérifications. Mon dossier est vierge, tout est beau, elle comprend pas. Donc là, près une heure plus tard, elle fait des appels, elle m'envoie à l'autre grosse SAC de la ville de Saint-Hyacinthe.
Mais là, il faut rappeler aux gens là, que vous n'avez pas votre véhicule à ce moment-là.
Non, il a été remorqué, là.
OK.
Donc là, je prends un taxi, je m'en vais à Saint-Hyacinthe. En arrivant là-bas, on recommence à zéro, j'ai écouté mon histoire. Là, il doit être rendu à peu près 9-10 heures le matin. Ça s'est éternisé toute la journée à m'ostiner avec eux autres en disant que moi, j'ai pas le droit de conduire, mais sinon, leur dossier, tout est beau. Là, je me fais envoyer à gauche, envoyer à droite. Ils ne savaient rien. Il n'y a comme rien qui se passe. Puis là, je me fais dire à la fin de la journée, disant que je vais recevoir un appel de la SAC pour avoir une levée de saisie de mon camion, mais ils savent pas quand. Donc, il faut que j'aille chez moi attendre. Puis là, la madame me dit, avec un beau petit sourire un peu sarcastique, « Vous savez, monsieur, c'est pas nous qui donnons les tickets, c'est les policiers. » Donc là, je retourne chez moi, j'attends l'appel. L'appel finit par arriver. « Monsieur, on s'excuse, c'est une grave erreur de notre part. La levée de saisie est bonne. Allez chez votre véhicule, on s'occupe de tout payer. On est vraiment désolé. » Donc, ça se termine, entre parenthèses, avec un appel. J'ai mon camion, la vie est supposément belle le 4 mai à 6 heures le soir.
OK. Donc, en principe, votre dossier, il est réglé, là. C'est une erreur du système. Puis, je le sais, il y a eu un paquet de cas de gens qui ont été interceptés, à qui on a remis des constats d'infraction dans certains cas, ou saisi des véhicules, puis ça avait rien à voir, là. C'était de la mauvaise information, puis les policiers avaient accès à des données qui étaient pas réelles, qui étaient fausses.
Exactement.
Là, vous vous dites, la vie est belle, je peux continuer à faire mes affaires sans problème.
Oui, c'est ce que je me dis.
Janvier 2024, il arrive quoi?
Oui, le mardi dernier, il y a deux jours, un des employés de la compagnie conduit avec mon camion personnel, puis il se fait arrêter, je ne sais pas pourquoi, là, une interception. Puis le policier lui dit que le véhicule n'a pas le droit de rouler sur la route, qu'il ne peut pas rien dire, il faut qu'il me parle à moi. Donc là, je me fais appeler par le policier, qui m'explique que mon véhicule n'a pas le droit de conduire. Puis tous mes véhicules, dans le fond, mon permis de conduire est révoqué. Depuis un petit bout, là, je n'ai pas la date exacte. Hein. Donc là, je ne sais pas pourquoi, il me dit que j'ai un contravention impayée à mon dossier. Là, je lui demande c'est quoi la contravention. Il me dit, ah, ben, c'est un ticket à Belleuil. Fait que là, je fais, c'est impossible, j'ai pas eu de ticket à Belleuil depuis une mai. Donc là, je retourne à la SAC de Belleuil. Je pars de Montréal, je m'en vais à la SAC de Belleuil, je vais voir la même gentille dame Son nom, c'est Joanne. Je le plug, là, elle est vraiment écœurante. Elle me reconnaît dans la salle. Je réexplique mon histoire, puis là, elle n'en revient pas. Donc, elle fait des vérifications. Elle voit que j'ai une amende impayée à mon dossier, mais le système de la SAC ne leur dit pas c'est quoi l'amende. Donc, elle m'envoie à la cour municipale de Belleuil pour faire imprimer mon dossier. Mais là, j'ai pas le droit de conduire, là. Mais j'ai conduit quand même, là. Je m'en vais à la cour municipale de Belleuil. Okay. J'imprime mon dossier. Puis là, je me fais dire, faut faire la grosse sac de Saint-Hyacinthe encore, parce que eux, t'as le pouvoir d'annuler tout ça.
OK, mais juste que je comprenne, là. L'amende dont on parle, c'est celle que vous aviez eue, en principe, là, au mois de mai, que vous pensiez que c'était réglé, mais que ça n'a jamais été effacé.
En plein ça. Puis là, moi, j'étais pas au courant de cette amende-là. Je dirais que la cour municipale de Belleuil me l'imprime. Là, j'ai eu la confirmation que c'était ça. Donc là, je me rends à Saint-Hyacinthe, parler avec une autre dame, là, cette dame-là, super, super. Elle comprend pas encore une fois. Là, elle voit généralement impayé à mon dossier, mais le numéro d'infraction correspond pas avec le numéro d'infraction de ma feuille de la cour municipale de Belleuil. Donc là, elle me dit, il faut que tu retournes à Belleuil. Là, j'ai pogné un peu les nerfs. J'ai dit, là, on va le 24, là, vous allez appeler. Là. Fait que là, elle a appelé. Elle a passé à peu près une heure et demie au téléphone avec la cour municipale de Belleuil pour comprendre que c'est la même contravention, juste que j'ai eu un plaidoyer de culpabilité automatique au mois de juin. Lui, ça n'avait pas été contesté par la SAC. Donc là, j'ai comme j'ai appelé coupable sans le faire. Donc, c'est la même contravention. Donc là...
Ben, c'est-à-dire que quand vous passez en cour municipale, puis votre dossier est là, puis vous vous présentez pas, c'est automatique, donc vous êtes reconnu coupable. Mais vous êtes pas présenté parce que vous aviez pas à le faire, parce qu'on vous a dit que le dossier était réglé.
Exactement. Donc là, la cour municipale de Belleuil explique à la dame qu'elle peut pas rien effacer tant que la SAC envoie pas une confirmation que c'est leur erreur. Mais la madame de la SAC, elle me dit « Je suis pas capable de confirmer que c'est notre erreur. » Fait que là, je dis « OK, mais là, il faut faire quelque chose. Là, ça n'a pas de bon sens. » Donc là, elle parle avec la gestionnaire puis la chef d'équipe. Là, mon dossier change de personne. Une nouvelle dame. Là, je réexplique mon histoire. Non, ça repasse au téléphone et tout. Puis là, ça finit par me dire « Écoutez, il est rendu quasiment 5 heures, ça va fermer. Monsieur, votre dossier, ça va régler aujourd'hui. » Je dis « OK, mais là, moi, il faut que je conduise. J'ai un enfant à garderie à aller chercher. Là, c'est pas vrai que je vais prendre l'autobus. » Donc là, elle me fait sentir chanceux de me donner un permis temporaire de un mois. Je lui demande, OK, mais là, mes véhicules, elle dit qu'on peut rien faire, par exemple. Fait que là, je fais, OK, mais moi, je fais quoi? J'ai envie de conduire, mais je conduis quoi? Puis là, elle me répond, ben, tu pourrais aller louer un camion. Je vais faire dire ça par la SAC.
Donc là, c'est la maison des fous. Donc, ce matin, voilà. À 7h35, votre statut, c'est quoi exactement en termes de permis de conduire?
Là, j'ai un permis probatoire, ben, temporaire, dans le fond, de un mois, un papier là, qui me dit que j'ai le droit de conduire malgré mon interdiction de conduire. J'ai réussi à avoir aussi un mois pour mon camion pour que l'employé de la compagnie puisse travailler. Mais là, la SAC est supposée m'appeler. Il est supposé m'appeler le lendemain, le mercredi, j'ai pas eu d'appel. J'suis toujours en attente. Puis écoutez, on le saura peut-être jamais.
Vous êtes patient, monsieur.
Oui, au téléphone un peu, là, mais à 5 heures, mardi, un peu moins.
Un peu moins.
Ouais.
OK. Merci d'avoir partagé ça avec nous ce matin, M. Provost. Bonne chance à vous.
Merci beaucoup.
Benjamin Provost, c'est un entrepreneur général. C'est quelqu'un qui travaille dans la vie. OK? Ça veut dire qu'en mai 23, en plein naufrage de la nouvelle patente de sa clique, on découvre qu'il a une amende à payer pour conduite avec faculté affaiblie, 2 500 $, que ça n'a pas été payé, donc on saisit le véhicule, puis tout ça. Ce qui est totalement faux. On s'aperçoit de l'erreur. La SAC est supposée corriger l'erreur, mais ne corrige pas vraiment l'erreur, parce qu'en cour municipale, tu te présentes pas, t'es condamné, ton dossier est encore là. Ça, c'est en mai. En janvier, là, il y a quelques jours, le système est encore tout mêlé. Fait que lui, encore, il se fait saisir son véhicule, puis il est repogné, alors qu'il n'y a rien à se reprocher, il n'y a rien fait, comme d'autres Québécois qui ont été interceptés. Puis je me souviens, quand on a parlé de ça, les grands bonzes de la Société d'assurance automobile m'avaient dit, « Mais Charquin, faites-vous-en pas. S'il y a des contraventions qui ont été données, ça va tout disparaître. Les gens ne seront pas importunés par ça. Puis on va assumer nos erreurs là, sur les problèmes de connexion entre la police et la vraie vie, là, c'est qu'il y a encore du monde qui sont pris avec... des dossiers tout croche à la Société d'assurance automobile. Je sais que la ministre, Mme Guilbeault, nous écoute régulièrement, ou en tout cas son entourage. Vous devriez prendre le téléphone et régler le dossier de M. Provost au plus sacrant. Pour qu'il ne puisse pas se faire arrêter dans deux semaines en disant qu'il y a encore un 2500 à payer, qu'il puisse prendre ses véhicules et qu'il puisse faire travailler son monde. Juste ça. Si vous n'avez pas les coordonnées de M. Provost, parce que ça se peut que dans la machine, la SAC, ça soit compliqué, il s'appelle Benjamin Provost, là. Appelez ma gang, on va vous mettre en contact avec lui. Mais ça, c'est pas normal que ça passe par une émission de radio, mais il faut croire que même si les gens de la Société d'assurance auto sont de bonne volonté, puis sont gentils, puis Joanne, puis tout ça, c'est encore tout croche comme système.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Merci beaucoup. Et j'en parle aussi avec Maître Caroline Champagne, qui est vice-présidente à l'encadrement, à l'organisme d'auto-réglementation du courtage immobilier du Québec. Maître Champagne, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ça joue dur à ce point-là dans le monde du courtage immobilier?
Ben, quoique tout le monde ait droit à la présomption d'innocence, ça reste que les infractions qui sont reprochées dans cette affaire-là semblent extrêmement inquiétantes pour l'OACQ, mais ce qui est rassurant pour le public, c'est que l'OACQ est là pour justement protéger le public en menant des enquêtes et puis en sanctionnant les courtiers qui ont des comportements qui ne sont pas éthiques. Alors, à partir du moment où est-ce qu'on est informé d'une situation comme celle-là, ben nous, on peut ouvrir une enquête et puis voir s'il y a eu une problématique au niveau des comportements éthiques et déontologiques des courtiers qui sont impliqués dans l'affaire.
OK, mais étiez-vous au courant qu'il y avait eu des incendies pendant les dernières années qui visaient des bannières?
Oui, on était évidemment là, au courant de ces informations-là dans la mesure où est-ce que c'est des informations qui étaient publiques, mais par contre, on n'avait pas d'informations à l'effet que ça pouvait être lié à des comportements d'un courtier immobilier.
Est-ce que vous le connaissez, M. Folla?
Ben, c'est un titulaire de permis, c'est un dirigeant d'agence de l'agence Sutton Clodden. Alors oui, effectivement, c'est un courtier qui détient un permis qui a été délivré par l'OACQ. Alors oui, ça fait partie là, des dirigeants d'agence qui détiennent un permis de l'OACQ.
OK, mais c'est pas un courtier simple, là. C'est un joueur plus important dans une région, là.
Ben, en fait, il détient un titre de dirigeant d'agence. Vous devez savoir que dans toutes les agences immobilières, il doit y avoir un dirigeant d'agence. C'est la personne qui est responsable d'assurer la supervision, la sélection des courtiers qui travaillent au sein de l'agence. C'est aussi la personne ressource pour les clients au sein des agences. Alors, c'est le titre c'est le permis qu'il détient, M. Folla. Donc, il est dirigeant d'agence de la firme Sutton Clodden.
Est-ce qu'il va le perdre au terme d'un procès où il serait théoriquement reconnu coupable?
Ben, en fait, comme je vous disais, nous autres, notre rôle, à partir du moment où est-ce qu'on obtient une information comme celle-là, qui est extrêmement inquiétante, le rôle de l'OACQ, c'est de s'assurer de protéger le public en menant des enquêtes, en vérifiant voir si les allégations sont fondées. Puis si elles sont fondées, bien, on va déposer une plainte devant le comité de discipline. Le comité de discipline, qui est un comité indépendant, un tribunal indépendant, va décider si la personne est coupable. Et puis, le cas échéant, on va lui imposer une sanction. Puis, l'autre façon aussi pour nous protéger le public, c'est en ayant la possibilité d'indemniser les personnes qui sont victimes de fraude. Dans ce cas-ci, là, on parle pas de, il semble pas que ce soit un cas de fraude, mais plutôt dans des cas, d'autres cas, on peut aussi indemniser les personnes qui sont victimes de fraude.
Mais en fait, ma question, c'est de façon plus générale. Mettons que je parle pas de lui, là. Quelqu'un qui est reconnu coupable d'avoir allumé des incendies criminels, est-ce qu'il peut être courtier?
Bien, en fait, à partir du moment où est-ce qu'une personne est reconnue coupable d'une infraction criminelle, oui. Eh bien, le comité de discipline peut suspendre automatiquement son permis. On peut aussi faire une demande de suspension provisoire devant le comité de discipline, et puis c'est ce qu'on va évaluer là, dans les prochains jours, à partir de l'information qui vient d'être divulguée.
Est-ce que ça arrive dans une année qu'un courtier est radié à vie, là, perd son permis à vie?
Oui, c'est la sanction, je dirais, ultime. Donc, dans les cas les plus graves, on peut faire révoquer le permis d'un courtier. On peut demander la suspension permanente de son permis. Ça, c'est vraiment dans les cas où est-ce que les infractions sont extrêmement graves. Et puis, effectivement, ça va arriver. Des cas de fraude, des cas où est-ce que le comportement est tellement grave que ça mérite justement de ne plus avoir le droit d'agir auprès du public.
Là, il y a un cas, parce que ça brasse de votre côté, là. Vous avez cette courtière, là, Mme Giroir, puis son conjoint, qui ont été déclarés coupables sur toute la ligne concernant des promesses d'achat bidon. Est-ce que la compète est à ce point serrée, puis que le marché est tellement dur que ça joue du coude, puis pas toujours de façon légale?
Bien, je vous dirais que ce qui est rassurant, c'est qu'on est là pour protéger le public, encore une fois, dans cette affaire-là.
Vous l'avez dit à plusieurs reprises, là. Je sais que vous êtes là pour protéger le public.
Oui.
Moi, j'essaie de voir pourquoi ce genre d'événement-là semble se produire assez souvent.
Bien, ça reste que sur 100 000 transactions par année au Québec, la plupart se déroulent très bien. Maintenant, quand il y a des situations comme celle-là, l'OACIQ agit vraiment rapidement. Avait demandé ici là, une suspension provisoire qui avait été obtenue pour arrêter justement ces comportements-là qui n'ont pas de bon sens, là, qui sont totalement non éthiques, qui sont totalement non déontologiques. Alors, pour justement arrêter ces comportements-là, on dispose des pouvoirs qui sont prévus en vertu de la loi, puis c'est dans ce sens-là que l'OACIQ agit pour protéger le public.
OK. Les décisions qui sont rendues, est-ce qu'elles sont accessibles au public? Autrement dit, est-ce que je peux aller sur votre site, par exemple, et voir qui sont les courtiers qui ont fait l'objet de sanctions et la nature des infractions qu'on leur reproche? Est-ce qu'un client peut aller voir ça?
Oui, absolument. Puis on invite le public, d'ailleurs, à consulter notre site Internet. Donc, on a le registre des courtiers immobiliers sur lequel on peut trouver toute l'information au sujet des courtiers. Puis aussi, toutes les décisions qui sont rendues par le comité de discipline sont publiques. Alors, c'est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde peut savoir quelles sont les décisions qui ont été rendues. On peut lire ces décisions-là, comprendre les motifs qui ont mené un comité de discipline à imposer telle ou telle sanction. Alors, tout ça, c'est disponible. Alors, on invite le public à consulter notre site Internet. On les invite également à communiquer avec notre service Info ACQ, qui est un centre d'appel dans le cas où est-ce qu'ils ont des questions en regard d'une transaction immobilière. Puis s'ils ont des situations à dénoncer, ne jamais hésiter à communiquer avec le service d'assistance au public qui est là pour prendre toutes les informations, recueillir les faits, interroger les gens, puis mener des enquêtes. Parce que c'est de cette façon-là qu'on peut s'assurer d'avoir un courtage qui soit conforme à ce que la loi prévoit.
Parfait. Merci beaucoup, Maître Champagne. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir. Maître Caroline Champagne est la vice-présidente encadrement, organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Et ça arrive régulièrement dans certains milieux, les fameux incendies criminels ou des tentatives d'intimidation. On a vu des guerres de pizzeria, j'ai vu des... Enfin, en restauration, ça arrive assez souvent, mais d'autres types de commerces aussi. Mais dans le domaine du courtage, disons, pendant 5 ans, il faut le faire, là. Et surtout, c'est sur un petit territoire. D'autre part, on a appris hier l'arrivée de 15 nouveaux juges à la Cour du Québec qui seront affectés à la Chambre criminelle et pénale. On sait qu'il y a eu, dans les derniers mois, tout un litige. D'un côté, les juges qui se disaient débordés, qui demandaient plus de temps pour écrire leur jugement. Le ministre disait, ouais, mais vous allez travailler plus, puis vous allez procéder. Ouais, mais il faut nommer des juges. Finalement, il y en a 15 qui vont pouvoir siéger maintenant. Le ministre de la Justice est avec nous, Simon Jolin Barrette. Monsieur Jolin Barrette, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Première question, les 15 juges, là, est-ce que ça répond aux besoins, là, vous comblez tous les postes ou vous êtes encore à la recherche de juges?
Ben, en fait, on comble les 14 postes de juges qu'on avait annoncés dans le cadre de l'entente avec la direction de la Cour du Québec. Donc, le gouvernement du Québec remplit son engagement de nommer 14 nouveaux postes de juges, mais en cours d'année, il y a toujours des concours qui sont affichés parce qu'il y a des juges qui partent à la retraite ou qui sont malades ou qui décident de quitter leur fonction. Donc, à chaque année, on remplace une dizaine de juges. Mais c'est 14 nouveaux postes de juges pour donner les outils à la Cour du Québec pour réduire les délais judiciaires puis les outiller afin d'avoir les ressources nécessaires pour bien faire fonctionner le système de justice.
OK. Ces juges-là seront en fonction à partir de quel moment?
Ils sont en fonction à partir de hier, mercredi, lorsqu'ils ont été nommés. Et donc, là, ils vont être assermentés vendredi, puis ils vont pouvoir commencer à siéger dans les prochaines semaines.
OK. Votre objectif, là, c'est de réduire les délais de quelle façon? Puis de façon très concrète, là, je veux dire.
Bien, de façon très concrète, vous savez, la Cour suprême, avec l'arrêt Jordan, nous dit « Cour du Québec, c'est 18 mois. Devant juge et jury, Cour supérieure, c'est 30 mois. » Moi, je souhaite qu'il n'y ait aucun dossier en arrêt des procédures ou en allée prosecui quand le DPCP est obligé, en raison de l'avancement des délais, de retirer lui-même les accusations. Je souhaite que tous les dossiers puissent être jugés dans le délai raisonnable, puis qu'on n'échappe pas de dossier en raison des différentes circonstances qui parfois amènent des arrêts des procédures ou des délais. Moi, mon objectif pour donner confiance aux gens, c'est ça. Il va y arriver dans certaines situations des exceptions, ça arrive tout le temps, mais il faut vraiment avoir, puis c'est pour ça que j'ai mis en place la table de justice à l'automne dernier, puis je travaille avec tous les acteurs du système de justice, Cour du Québec, Cour supérieure, Cour d'appel, Commission de services juridiques, DPCP, Avocat de la Défense également, pour qu'on ait des solutions ensemble pour le système de justice, pour vraiment rentrer dans les délais, puis que les victimes, leur dossier puisse être entendu rapidement, puis que justice soit rendue.
OK. Pour pouvoir respecter ces délais et que justice soit rendue, évidemment, les postes de juges, c'est un aspect, puis un aspect important. Mais beaucoup de juges disent qu'ils sont sous-équipés, qu'il y a un roulement de personnel, que le système informatique est désuet. Autrement dit, l'environnement des juges, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Est-ce que vous constatez ça, vous aussi?
Bien, on a des défis en matière de rétention de personnel, je vous le cacherai pas. T'sais, au ministère de la Justice, on a à peu près 4000 employés. Juste l'année passée, on a mis 1000 nouveaux employés parce qu'on a beaucoup de départs parce que les conditions de travail doivent être améliorées. Puis je travaille en collaboration avec mes collègues du Trésor. On est dans un processus de reclassification avec les syndicats présentement, notamment pour les greffiers. Mais j'ai un exemple. À Montréal, parfois, on a eu l'année passée une journée où est-ce qu'on a eu des salles qui n'ont pas ouvert parce qu'il y avait des greffiers qui étaient malades, absents, puis je ne cacherai pas qu'on est en pénurie de personnel nous aussi. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est une équipe volante de greffiers qui peuvent se déplacer de palais de justice en palais de justice, ou même le matin même, lorsque, supposons, il y a une maladie ou les écoles sont fermées comme aujourd'hui, bien, on a des greffiers à distance aussi qui peuvent ouvrir la salle de cours avec le juge qui est à Montréal, puis on peut se connecter à distance, comme ça se fait pour les comparutions la fin de semaine. Donc, c'est pas optimal, mais au ministère de la Justice, on travaille avec des solutions innovantes, on travaille en collaboration avec la magistrature, mais il y a toujours place à amélioration, mais on est conscient des défis qu'on vit dans le système de justice, notamment relativement à la pénurie de personnel, aux conditions de travail, puis on travaille fort pour améliorer le tout.
Est-ce que j'ai bien compris que un des fonctionnaires responsables de faire en sorte qu'il y ait moins d'attente dans le système, c'est celui qui a présidé au naufrage de la Société d'assurance auto?
Oui, effectivement, c'est Maître Marcellet. À partir du moment où j'ai lancé la table de justice, j'ai demandé d'avoir une personne qui allait m'aider là-dedans. Puis j'ai pleinement confiance en Maître Marcellet. Il est arrivé des difficultés au niveau de la Société d'assurance automobile du Québec que tout le monde connaît. Mais par contre, Maître Marcellet, c'est quelqu'un qui a une longue feuille de route dans la fonction publique québécoise. C'est quelqu'un qui est compétent. Il a été soumis à la justice, soumis à la sécurité publique. Il connaît très bien les défis du système de justice. C'est lui qui était là lorsqu'il y a eu l'arrêt de Jordan également. Alors moi, j'ai pleinement confiance en lui, puis il me donne un excellent coup de main. Puis je vous le dis, M. Arcand, on va arriver avec d'autres mesures avec les partenaires du milieu de la justice. Je viendrai vous les expliquer prochainement. Mais il me donne un très bon coup de main, puis c'est quelqu'un qui est compétent dans lequel j'ai confiance.
C'est... Je comprends ce que vous me dites, là, mais en même temps, ça donne l'impression que quand t'es employé de l'État, que tu fasses n'importe quoi, t'es toujours certain de garder ta job. On va te déplacer. Il était toujours bien le président de la Société d'assurance auto. C'est un désastre total. Et pouf, on le déplace, puis il s'en va à la justice.
Ben, écoutez, il y a eu des difficultés à la SAC.
Ben, j'appelle pas ça des difficultés, là, sérieusement, là.
Ben, Monsieur Arcand, je suis d'accord avec vous, c'est inacceptable pour les Québécois qui se sont retrouvés à se riser le nez après 3 semaines de fermeture, puis il y a eu des problèmes à la SAC, tout le monde en est conscient, puis encore aujourd'hui, on est en train de rétablir ça. Cependant, M. Marcellet est arrivé à la fin complètement du processus à la SAC, donc ça faisait plusieurs années que c'était en processus. Écoutez, c'est pas moi qui est ministre responsable de la SAC. Cependant, je peux vous dire, sur la candidature de M. Marcellet, moi, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, qui a des qualités, des aptitudes, puis qui me donne un coup de main. Puis c'est quelqu'un qui a servi l'État québécois pendant plusieurs années. Oui, il y a eu un problème avec la SAC, mais ce que je veux dire, c'est pas le travail d'une seule personne. Puis je peux vous dire que moi, dans mes dossiers présentement, Il me donne un excellent coup de main. C'est quelqu'un qui connaît les acteurs du système de justice, qui vient de ce milieu-là. Et avec lui, avec sa collaboration, on va réussir à réduire les délais. Je comprends qu'il y a des difficultés. Cependant, je peux vous dire qu'il fait un très bon travail. Puis vous savez, M. Arcand, moi, dans les fonctions que j'occupe, normalement, vous me connaissez, j'essaie de livrer la marchandise, puis je m'arrange pour que ça marche, puis je vais réussir.
OK. Évidemment, l'autre question importante, vous avez vu le mouvement des juges, des constables spéciaux, des procureurs demander plus de sécurité dans les palais de justice. Avez-vous l'intention d'installer des arches de sécurité comme on a, en fait, ceux qu'on retrouve au palais de justice de Montréal pour au centre judiciaire Gouin?
Ben moi, je suis bien ouvert à mettre des arches de sécurité supplémentaires. Il faut le dire, là. L'événement qui est arrivé, c'est un événement extrêmement malheureux, puis je pense à l'interprète judiciaire, puis mes pensées sont avec lui. Cependant, je serai en collaboration avec M. Bonnardel, la sécurité dans les palais de justice, elle est assurée. Nos constables, tous les matins, ils sont là, ils font des interventions, ils assurent la sécurité, puis ça, je dois vous le dire, c'est sécuritaire dans nos palais. Est-ce qu'on peut mettre plus de sécurité? Je suis d'accord. On a mis des mesures temporaires là, à Longueuil, Laval, Saint-Jérôme. On devrait travailler sur un déploiement d'arches temporaires. Cependant, nos palais de justice, puis ça, c'est mon plus gros défi, là, ils n'ont pas été construits pour ça. Fait que dans les nouveaux palais de justice, c'est déjà prévu qu'ils sont dedans. Exemple, Saint-Hyacinthe, il est en construction, ils vont en avoir. Rouen, Robertval, il y en a dedans. Ensuite, faut avoir le personnel pour les opérer. Là, on a un défi relativement au nombre de constables. Je pense que vous l'avez, M. Bonnardel vous l'a dit, on est en recherche, mais M. Bonnardel a lancé une cohorte supplémentaire de constables spéciaux à Nicolette pour être formés. Fait qu'on vit des défis, mais par contre, les palais sont sécuritaires, puis les constables assurent la sécurité. Cela étant dit, moi, je suis bien ouvert à mettre des arches de sécurité supplémentaires, mais ça prend des gens pour les opérer aussi. Fait qu'on va travailler conjointement là-dessus.
OK, mais juste... Donc, vous nous dites ce matin qu'il y aura des arches de sécurité dans les palais de justice, là où c'est possible d'en installer.
Bien, moi, je suis ouvert à en mettre.
Oui, mais quand vous me dites « je suis ouvert », est-ce que ça veut dire que vous allez le faire ou pas?
Bien, j'aurai l'occasion, M. Arcand, fort probablement, de revenir vous voir lorsque j'aurai une annonce à faire. Vous savez, ça me fait toujours plaisir de venir vous voir. Mais aujourd'hui, j'ai pas rien à annoncer, mais je peux vous dire qu'il y avait déjà du travail de fait. On continue à faire le travail, puis je reviendrai vous voir.
Je voudrais poser une question au ministre de la Justice, puis à l'avocat que vous êtes. Vous venez de nommer des juges à la Cour du Québec. Je comprends le principe de l'indépendance entre le politique et le juridique. Il faut respecter ça. Mais quand on est nommé juge, là, est-ce qu'on est juge à vie? Quand nos décisions sont constamment renversées par les tribunaux d'appel, quand on ordonne des nouveaux procès, que les commentaires qui sont rendus, je parle de la juge Joël Leroy, là, est-ce qu'on l'envoie en formation? Y a-t-il moyen de faire en sorte que ça soit pas un désastre à chaque fois qu'elle rend une décision?
Ben écoutez, M. Arcand, vous l'avez dit, moi je suis ministre de la Justice, je dois respecter l'indépendance judiciaire.
Oui.
Alors,
ma question, est-ce qu'il y a des mécanismes pour améliorer la formation d'un juge qui vraiment a des problèmes?
OK. Bon, ben la responsabilité de la formation des juges, c'est le conseil de la magistrature qui est responsable de ça. C'est prévu dans la loi et ils ont le budget pour ça. Présentement, je crois qu'il y a une plainte au conseil de la magistrature contre la juge Roy. Et le conseil de la magistrature, c'est eux qui sont chargés de la discipline, de la déontologie judiciaire. Donc, c'est un organisme qui est indépendant du gouvernement, c'est pas l'exécutif qui gère le conseil de la magistrature, c'est les juges entre eux, ben en fait par le biais du conseil qui applique le code de déontologie de la magistrature. Donc je leur laisse leur mandat et la responsabilité de l'exécuter.
OK, donc ça veut dire que ça prend des plaintes.
Ben en fait, la façon que fonctionne le conseil de la magistrature, le juge en chef de la Cour du Québec est président du conseil de la magistrature, donc c'est lui qui a autorité sur ces juges. Donc, le public, oui, peut faire des plaintes. Le juge en chef peut faire lui-même également des plaintes. Le ministre de la Justice également peut faire des plaintes à l'encontre d'un juge. Cela étant, l'organisme chargé d'évaluer la conduite des juges en matière déontologique, c'est le conseil de la magistrature. Ce n'est pas le le législatif ou l'exécutif.
Non, non.
C'est vraiment le conseil de la magistrature. Donc, vous comprendrez, M. Arcan, que moi, je peux pas commenter ce genre de situation-là.
Non, non, je comprends
ça. Supposons que le procureur général, donc moi, en ma qualité de ministre de la Justice, on a un dossier devant la Cour et on n'est pas d'accord avec la décision de la Cour, le contenu de la décision. On va en appel devant les tribunaux supérieurs, donc à la Cour d'appel, à la Cour suprême. Pour ce qui est du comportement d'un juge, à ce moment-là, c'est le conseil de la magistrature et le juge en chef qui a autorité sur ses juges à la Cour du Québec.
Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Un grand plaisir.
Au revoir. Bonne journée. Simon Jolin-Barrette, qui est le ministre de la Justice et procureur général du Québec. Très bien. On va parler de ces fameux taxis illégaux qu'on retrouve à l'aéroport de Montréal. Est entré en vigueur de nouveaux règlements, justement, pour enrayer ce fléau. Des passagers qui se font harceler, des fois il y a même des cas de chantage et des gens qui stationnent illégalement, qui viennent vous chercher à l'intérieur de l'aéroport. Donc, il y avait déjà eu des règlements il y a quelques mois, puis là, nouvelle mouture pour serrer la vis. Anne-Sophie Hamel-Longuetin est avec nous, elle est la directrice des affaires corporatives chez Aéroports de Montréal. Madame Longuetin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Alors, quels sont les nouveaux règlements, puis en quoi ça va changer les pratiques?
Ben écoutez, on s'est parlé la semaine dernière. Je vous avais dit qu'il y avait un règlement qui entrerait en vigueur dans les prochains jours. On nous avait donné la bonne information donc, du côté du ministère. Donc, effectivement, règlement qui est entré en vigueur à minuit une aujourd'hui, qui réinstaure la notion de Yule comme étant un lieu désigné pour faire du transport rémunéré de personnes. Ça, ce que ça veut dire, là, rapidement, c'est que nous, ADM, on donne des permis d'opération à des taxis. Il y en a 400 là qui sont offerts là, cette année. Donc, on leur donne des permis d'opération et ce sont seulement ces taxis qui, maintenant, sont autorisés légalement à opérer à l'aéroport Montréal-Trudeau.
Sans quoi, les amendes sont de quel type?
Écoutez, c'est des amendes quand même assez salées. Là. On parle d'amendes pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour une première infraction. Ce montant-là va être porté au double pour une deuxième infraction, triple pour une troisième infraction. Donc, il y a un volet financier qui va être assez substantiel pour les chauffeurs qui sont non autorisés et qui ne respectent pas le règlement. Et nos équipes, là, sont vraiment à pied d'œuvre pour enforcer ce règlement-là. Ils ont les habilitations maintenant de le faire. Le changement réglementaire amène ça aussi. Donc, c'est quand même un gros soupir de soulagement qu'on a poussé hier pour les passagers, qui vont pouvoir avoir accès maintenant à un transport qui est plus sécuritaire, mais aussi pour les chauffeurs de taxi qui sont détenteurs de permis. Je vous dirais, depuis plusieurs mois, c'était pas facile pour eux. Il y avait une compétition qu'on pourrait qualifier de déloyale. Donc, on est très satisfait du dénouement de la situation et de l'action de la ministre dans le dossier, évidemment.
OK. Juste comprendre, parce que c'est un univers qui est pas nécessairement simple, là. Vous me parlez de ces 400 chauffeurs, mais un chauffeur qui n'a pas de permis de l'aéroport, mais qui travaille, moi je sais pas, pour une compagnie, là, puis c'est un véritable chauffeur de taxi, il peut pas se mettre en ligne à l'aéroport. Ça lui prend ce permis-là pour faire ça.
Oui, tout à fait. En fait, ça a toujours été le cas. Et cette façon de fonctionner était tombée avec les changements législatifs là, qui étaient intervenus en 2020. Mais ça a toujours été le cas. Et la raison pour laquelle nous, on émet des permis de taxi, c'est pour garder un certain contrôle, pour s'assurer notamment que les chauffeurs ont des véhicules qui respectent leur calendrier d'entretien mécanique, que les véhicules sont en bon état, qu'ils sont assez récents aussi, qu'ils ont suffisamment de place dans la valise pour des bagages, et aussi que les chauffeurs offrent un service à la clientèle qui est au niveau des standards d'ADM. Donc, c'est vraiment ce contrôle-là qu'on exerce, puis je vous dirais que d'avoir un permis d'opération à l'aéroport, c'est assez payant pour les chauffeurs de taxi. Donc, les chauffeurs avec lesquels on travaille, ce sont des précieux partenaires. Ils ne veulent pas perdre leur permis d'exploitation. Et c'est ce qui fait qu'on offre un service qui est très ordonné, là, vous l'avez dit. Il y a une ligne de taxi à Montréal-Trudeau et c'est la seule façon de prendre un taxi autorisé, c'est vraiment d'aller à cet endroit-là, à la porte 23 de l'aérogare, ou de prendre évidemment là, un service comme Uber. Mais les chauffeurs de taxi qui sont à la porte 23, ce sont des chauffeurs de taxi autorisés.
Et Uber, ça fonctionne comment? Je sors de l'aérogare, je pitonne l'application, puis il y a un Uber qui vient me chercher. Il n'y a pas de Uber en attente, là.
Non, il n'y a pas de Uber en attente, c'est vraiment par l'application. Donc encore okay. Là, si parce que bon, évidemment, la réglementation entre en vigueur aujourd'hui. On est là pour surveiller le tout. Ça se peut quand même qu'il y ait des gens qui s'effaient. Ces gens-là ont vu qu'il y avait une manne financière intéressante. Donc, on le répète aussi aux gens. Si si vous voulez un Uber, ça doit se passer par l'application. Quand le chauffeur arrive à l'aéroport, vous validez évidemment la plaque d'immatriculation, le nom du chauffeur. Donc, quelqu'un qui vient dans l'aérogare vous offrir un service par Uber, par exemple, c'est pas un chauffeur qui est autorisé à travailler à l'aéroport.
Bon, parlez-moi donc des chauffeurs de limousine, parce que il y en a plusieurs qui m'écrivent, qui me disent on peut aller chercher un client chez lui, l'amener à l'aéroport, mais est-ce qu'ils ont le droit de prendre un client qui est à l'aéroport et de l'amener chez lui?
Il y a un service, oui, de limousine à l'aéroport. C'est un service qu'on offre. Encore là, c'est un service qui est contrôlé. Donc, tout ça, là, et ce qui est important de dire aux auditeurs, c'est que ce sont des services qui sont contrôlés et il n'y a personne qui peut venir vous solliciter de façon non désirée dans l'aérogare. Si quelqu'un vient vous approcher pour un service limousine, taxi ou autre, ben c'est quelqu'un qui n'a pas l'autorisation de travailler chez nous.
Là, on va arriver dans la belle saison avec l'augmentation des vols. Et on sait que l'été passé, entre autres, on a eu des enjeux assez importants d'attente. C'était pratiquement plus long se rendre de la métropolitaine, mettons, à l'aéroport que de se rendre de Montréal à New York. Je caricature à peine, là. Quelles sont les mesures qu'on va voir là dans les prochains mois qui vont faire en sorte que ça sera pas toujours compliqué se rendre à l'aéroport?
Vous l'avez dit, on a eu des enjeux l'été dernier. On le reconnaît, on est les premiers à le faire. C'est pas une situation qui était agréable pour les passagers. Donc, on s'est vraiment mis au travail là, pour arriver avec un plan de mitigation. Ce sont des mesures de mitigation temporaires, évidemment, parce que la solution pérenne à tout ça, c'est d'augmenter la capacité du débarcadère. Et ça, ça va se faire là, d'ici 2028. D'ici là, cet été notamment, on offre des choix aux passagers. Donc, deux nouveaux sites de débarcadères alternatifs qui vont se trouver à l'est et à l'ouest du site aéroportuaire, qui vont être desservis par service de navette avec une fréquence à peu près aux 5 minutes. On va aussi modifier la grille tarifaire des stationnements. On offre aussi une gratuité pour 40 minutes dans tous les parcs de stationnement. Donc, l'objectif, c'est de réduire le nombre de véhicules qui prennent la fameuse voie là, pour se rendre en façade de l'aérogare, mais surtout de donner un choix aux passagers. Donc, le choix étant peut-être d'attendre un petit peu plus longtemps pour débarquer le passager vraiment en façade ou d'aller un petit peu plus loin, plus rapidement, pour avoir accès là, à des débarcadères alternatifs.
On a hâte de voir ça. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Merci à vous.
Anne-Sophie Hamel-Longtin, la directrice des affaires corporatives à Aéroport de Montréal. Mais on l'a dit la semaine dernière, ou il y a deux semaines, là, le phénomène est réel là, dans tous les aéroports dans le monde. Quand vous sortez avec votre valise, puis il y a une indication pour aller vers l'endroit où se trouvent les taxis, il y a toujours quelques personnes qui viennent vous accoster en vous proposant un tarif théoriquement moins cher. Ou encore qui vous attendent, puis même qui vous tirent par le bras pour vous amener vers l'extérieur, puis mettre pas mal de pression. Moi, j'ai vu ça à New York, là. J'ai vu ça dans d'autres aéroports. Et il y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui se plaignaient de ça ce matin. Mais c'est un univers, là, parce que les chauffeurs de taxi à qui je parle sont pas contents des Uber. Les Uber disent qu'ils se faisaient voler leur place par les chauffeurs illégaux. Fait que c'était un peu le zoo. Et là, on vient d'avoir des règlements qui entrent en vigueur maintenant.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.